Bonjour Bruno Tertrais.
Bonjour.
Directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Qu'est-ce que vous voyez dans cette image, l'une des images symboles du Chamboultou qui vient d'avoir lieu au nord de la Syrie?
Cette image est extrêmement forte, d'autant plus que c'est quand même la troisième fois en quelques mois que les Américains se montrent non fiables envers leurs alliés. Regardez ce qui s'est passé il y a quelques semaines lorsque les installations pétrolières saoudiennes ont été bombardées, ont été attaquées plutôt par des drones téléguidés par l'Iran. Eh bien, l'Amérique n'a rien fait. C'est quand même extraordinaire, en tout cas du point de vue de la région. Je peux vous dire que ça a été écouté. Donc, on lâche les Kurdes, on a lâché les Saoudiens, et pour les Turcs aussi, il y a quand même un menu souci, c'est que la Turquie n'a plus confiance dans l'Amérique et l'Amérique n'a plus confiance dans la Turquie. Il y a vraiment un énorme problème de crédibilité de l'Amérique au Moyen-Orient aujourd'hui.
On peut dire que Donald Trump a changé des règles du jeu qui étaient en vigueur depuis 70 ans.
Non, j'irai pas jusque-là, d'autant plus que vous dites 70 ans, ça concerne pas nécessairement l'OTAN. Ça concerne les alliances de l'Amérique en général, pas seulement l'OTAN. Mais il y avait déjà eu des problèmes avec Obama.
Bien sûr, il n'a pas inventé le désengagement américain.
Exactement,
Trump.
Il a pas inventé la crise de confiance dans l'Amérique comme protecteur.
Mais c'était moins foutraque et moins imprévisible, hein, on peut dire.
On peut dire ça. C'est-à-dire, Obama était un intellectuel, donc son désengagement était annoncé et beaucoup plus prévisible. Non, je crois que là, on est dans une crise de la crédibilité américaine, pas seulement au Moyen-Orient. Et on va en parler tout à l'heure, j'imagine, c'est Poutine qui ramasse les cartes derrière.
On en parle tout de suite.
Et si jamais Trump était réélu pour 4 ans, là je crois qu'on passerait vraiment dans une autre époque, dans une autre ère. C'est encore réparable d'une certaine manière. Hein. Ce n'est pas la première fois qu'on a des doutes sur la crédibilité, de la protection, de la garantie, de l'alliance américaine. Si Trump est réélu, alors là je pense qu'on passera vraiment dans un autre monde.
Côté russe, en revanche... Succès complet, triomphe même quand on lit la presse russe.
Ah bah quand on lit la presse russe, c'est toujours un triomphe avec Poutine.
Oui,
ça,
d'accord,
c'est sûr,
mais là, celui-là est assez éclatant. Succès que peu prédisait quand il y a 4 ans, Poutine est venu à la rescousse de Bachar al-Assad en envoyant son armée en Syrie.
Oui, c'est vrai. On pouvait prévoir que la Russie voulait se montrer comme un partenaire fiable au Moyen-Orient, contrairement justement à l'Amérique, parce que c'est ce que Poutine adore faire, et il a raison, c'est dire, regardez, l'Amérique n'est pas fiable, alors que moi, je ne laisse jamais tomber les copains, surtout si ce sont des hommes forts comme moi, en l'espèce Bachar el-Assad, la Syrie. Moi, je suis fiable, l'Amérique n'est pas fiable. C'est un jeu qu'il joue magnifiquement, et l'Amérique l'aide à le jouer, justement. Ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est que la Russie s'installe dans la durée, de manière massive, au Moyen-Orient, en Syrie. Voilà. Donc ça, c'est vrai que ça a été... ce n'est pas un changement de portage, là, pour le coup, de la politique russe dans la région. La Russie a toujours été alliée à la Syrie. Mais c'est vrai que cette installation massive militaire dans la région est quelque chose de nouveau et assez inattendu. Ouais. Et
aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la Russie de Poutine est devenue au Moyen-Orient ce qu'étaient les États-Unis il y a 10 ans, c'est-à-dire le maître du jeu?
Non. Maître du jeu, je ne sais pas, parce que d'abord, le jeu est tellement compliqué qu'il peut pas avoir un seul maître, oui. Premièrement. Je ne vois pas la Russie stabiliser, réconcilier les partis, faire la transition politique en Syrie. Attention, hein. Oui. La Russie est très forte quand il s'agit justement d'exercer la puissance au sens militaire du terme, beaucoup moins lorsqu'il s'agit de faire de la médiation ou de la réconciliation
politique. Même si Poutine était... en Arabie Saoudite et aux Émirats, il y a quelques jours.
Oui, mais alors justement, regardez, il est en Arabie Saoudite, c'est vrai que c'était une visite très importante, mais il ne remplace pas l'Amérique. Ils sont où les radars russes, les bases, les soldats russes, tout ce qui lie deux pays militairement comme l'Amérique et l'Arabie Saoudite depuis 1945. Donc, attention, il n'y a pas de renversement total. Poutine n'est pas en train de remplacer l'Amérique, mais il montre à tous les pays de la région et du coup à travers le monde aussi, parce que ce sont des messages politiques qui s'adressent au monde entier, il y a une alternative à l'Amérique, même si je pense que la Russie n'a pas la capacité économique et militaire de remplacer les États-Unis. Il y a le nombre de bases et d'alliances, de bases militaires par exemple, à l'extérieur du territoire russe est extraordinairement limité, c'est quelques-unes. 2 ou 3. L'Amérique, les bases principales, c'est 150 à peu près. Donc attention, on n'est pas dans un jeu de vases communicants, un pays qui remplace l'autre, mais on est quand même dans quelque chose d'important.
On rappelle que le rapport entre les budgets militaires des États-Unis et de la Russie, c'est un rapport de 1 à 15. Bruno Tertrais, on continue de parler avec vous de ce qui se passe, nouvel ordre mondial ou nouvel ordre régional ou pas d'ordre du tout, et de l'avenir de l'OTAN aussi.
Europe 1. Merci de nous rejoindre. C'est arrivé cette semaine. Continue jusqu'à 10h sur Europe 1 avec vous, Patrick Cohen.
Et avec Bruno Tertrais de la Fondation pour la Recherche Stratégique, dans un peu plus d'un mois, un sommet de chefs d'État doit célébrer les 70 ans du traité de l'Atlantique Nord et la naissance de l'OTAN qui n'a jamais paru aussi affaibli et divisé. Bruno Tertrais, le triomphe de Poutine, il tient aussi à la division des Européens, c'est l'un de ses objectifs, et à la fracture de l'OTAN.
À la division de la famille transatlantique. On a quand même aujourd'hui un énorme problème. Ça ne s'est jamais vu depuis 1949, depuis la signature du traité de l'Atlantique Nord, traité fondateur de l'Alliance. On a un problème majeur avec deux des principaux alliés. Un, les États-Unis. Deux, la Turquie. Deux problèmes différents, mais comme ça fait partie des deux plus grandes puissances militaires de l'Alliance, surtout l'Amérique, c'est quand même un vrai sujet. On ne sait plus si on peut encore se fier à l'Amérique de Trump, et on a des doutes de plus en plus importants sur la réalité de notre alliance avec la Turquie. Vous savez, au sein de l'OTAN, on est censé avoir soit les mêmes intérêts, soit les mêmes valeurs, de préférence les deux, mais au moins l'un des deux. Avec la Turquie d'Erdogan, je crois que nous n'avons pas les mêmes valeurs et de moins en moins les mêmes intérêts. Donc c'est un vrai sujet. Pensez quand même aussi que la Turquie d'Erdogan, c'est un pays qui a acheté des défenses antimissiles russes, pardon, défenses antiaériennes russes, pour se protéger contre une éventuelle attaque militaire américaine. C'est insensé. C'est après le coup d'État de 2016, il a eu peur que, en gros, l'Amérique l'attaque.
Et c'est la seule chose apparemment qui fâche aujourd'hui l'administration américaine. Hein. Pompeo a particulièrement insisté sur ce point, sur la vente du système de défense.
C'est vrai, parce que les Américains disent en même temps, du coup, attendez, on ne va pas vous vendre nos propres chasseurs bombardiers de cinquième génération, parce que la Russie pourrait apprendre tout donc de nos chasseurs si on met des intercepteurs russes en face. Donc c'est complètement baroque. Voilà, donc on a un problème Trump, on a un problème Erdogan. Ça va être effectivement assez folklore, ce 70e anniversaire, début décembre à Londres, présidé par un Boris Johnson, donc, on ne sait pas du tout où il sera. Donc ça va être complètement baroque.
L'OTAN a-t-elle encore un avenir? Est-ce qu'il faut songer à redéfinir un système d'alliance ou des systèmes d'alliance?
Alors l'OTAN l'a enterré de nombreuses fois depuis 1949, donc attention. Hein, c'est pas une organisation solide, elle ne va pas disparaître du jour au lendemain. Mais je crois en revanche qu'il faut là maintenant se préparer, nous Européens, au scénario de la fin de l'OTAN, en se disant si cette alliance n'est plus là dans 2 ans, dans 1 an, dans 6 mois ou même dans 10 ans, qu'est-ce qu'on fait nous? Qu'on ne soit pas surpris. Si Trump réélu se retire de l'alliance, qu'est-ce qu'on fait? On va être tétanisé. Alors, nous, Français, on a un avantage, c'est que le récit selon lequel, finalement, l'Amérique n'est pas forcément un protecteur fiable sur la durée, c'est un récit qu'on tient depuis 1958. Donc, on sera les mieux préparés intellectuellement à ça. Mais il faut vraiment se préparer à ce scénario et voir ce qu'on fait si demain, surtout si Trump est réélu, l'OTAN n'existe pas. Ça va être compliqué. Hein. Nos partenaires allemands, par exemple, ne sont pas prêts à ça. Pour eux, ils sont encore dans la logique du grand frère américain sur lequel on compte en permanence. Et je crois que la France a vraiment une carte à jouer. Elle aura une responsabilité, je pense, importante dans la redéfinition de ce système d'alliance en Europe si jamais l'OTAN s'effondre.
La politique internationale de Trump, elle est la plupart du temps considérée comme égocentré et imprévisible, mais certains analystes font remarquer que toutes ces décisions, ou en tout cas la plupart de ces décisions de politique internationale, aboutissent, débouchent sur un succès russe ou sur une extension de l'influence russe et de Poutine.
Et d'ailleurs, certains ont conclu aux États-Unis que ça prouve vraiment qu'il y a quelque chose de curieux dans sa relation avec Poutine et avec la Russie.
Vous en pensez quoi, vous?
Non, je pense qu'il se moque de ce qu'il se passe. C'est après moi le déluge, vous voyez. Et or, le déluge, c'est-à-dire Poutine est très content d'arriver. Ouais. Vous voyez. Non, je ne pense pas que ça soit une connivence entre Trump et Poutine, mais je pense que Poutine est extrêmement fort pour faire des stratégies d'opportunisme et pour saisir les occasions quand celles-ci se présentent. De même que Trump n'a pas un grand plan autre que appliquer son programme électoral, le mur notamment, etc. Mais Poutine n'a pas un grand plan pour la Russie. Il a une vision d'ensemble et puis après il fait de la tactique. C'est-à-dire qu'il va se saisir des opportunités quand elles se présentent. Il est très bon pour ça. Et avec l'Amérique, il a un parfait répondant d'une certaine manière. Donc voilà, c'est plus ça qu'une connivence entre les deux hommes.
Enfin, c'est des tactiques qui ratent hein, quand on voit le dossier nord-coréen par exemple, sur lequel Poutine a tout misé.
Non, Poutine n'a pas misé grand-chose, c'est plutôt Trump qui a misé.
Trump, pardon. Trump.
Ou alors j'ai raté un épisode.
Non, c'est moi qui me trompe.
Non, bien sûr, attendez, il faut quand même reconnaître que la plupart des initiatives diplomatiques de Trump sont des échecs. Hein, faut quand même être clair. La Corée du Nord, c'est un désastre. L'Iran, ça ne marche pas. La consolidation de la relation avec l'Arabie Saoudite qu'il promettait, c'est la catastrophe. Avec la Chine, il y a quand même un rapport de force qui est établi, mais de manière très imprévisible aussi. Alors, parfois, il faut être un petit peu imprévisible. Moi, je fais crédit à Trump d'une seule chose, d'avoir apporté un peu d'imprévisibilité dans la perception de l'Amérique et de l'Occident. On est toujours perçu comme trop prévisible, nous. Donc ça, c'est bien à petite dose. Le problème, c'est qu'avec Trump, c'est des doses de cheval. Donc ça, c'est pas très bon. Et je pense qu'avec la Chine, dont on n'a pas parlé, c'est aussi quelque chose dont il joue, l'imprévisibilité dans la relation. On a clairement une montée en puissance là, qui est en train de dominer tout le reste de l'échiquier international, de la relation américano-chinoise qui se développe maintenant à travers un prisme de containment, de confinement de la puissance chinoise. Mais la relation commerciale entre les deux pays reste soumise aux caprices de Trump. Et là, je crois que ça n'est bon ni pour l'économie américaine, ni surtout pour les économies mondiales, donc l'économie européenne également.
Merci Bruno Tertrais de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Dernier livre, La Revanche de l'Histoire, qui vient de paraître en version poche chez Odile Jacob.